Chapitre 44. Des parfums inconnus.
La brèche de Tarwin est l'endroit le plus logique,
affirma Nineveh.
Escortés par des aïels, l'ancienne sage-dame et le dragon chevauchaient sur une piste envahie par la végétation, dans les plaines de marée d'eau. Nineveh était la seule Aes Sedai présente. Narishma et Naef suivaient leur chef, l'air morose.
Logique, puisque Rand avait forcé leurs Aes Sedai à rester en arrière.
Ces derniers temps, il faisait tout pour marquer son indépendance vis-à-vis des sœurs. Nineveh chevauchait Rayon de Lune, une jument blanche acquisitionnée dans les écuries de Rand à Théar. Penser que ce garçon avait ses propres écuries dans une telle cité laissait rêveuse l'ancienne sage-dame. Sans compter que le dragon en possédait dans toutes les principales cités du monde.
La brèche de Tarwin, répéta Rand, secouant la tête.
Non. Plus j'y pense et plus je conclus que nous ne devrons pas nous y battre. L'âne me fait une faveur. Si je peux lancer un assaut en même temps que le sien, ce sera un grand avantage pour moi. Mais pas question de faire perdre du temps à mon armée avec la brèche de Tarwin. Ce serait un gaspillage de ressources.
Un gaspillage de ressources? Comme une flèche lâchée par un arc long de deux rivières, c'était vers la brèche de Tarwin que l'âne se dirigeait. Pour y mourir? Et pour Rand, l'aider serait une perte de temps? Berger décérébré. Les dents serrées, Nineveh se força au calme. Au moins si Rand avait consenti à une confrontation. Mais non, il parlait d'un ton monocorde, comme s'il n'était pas vraiment là. Il semblait sans émotion, mais Nineveh avait vu la bête se libérer et lui rugir après. Un monstre était tapis en lui. Et s'il ne lâchait pas la bombe à tout ça, très vite, il le dévorerait de l'intérieur. Mais comment le ramener à la raison? Pendant le séjour à Théar, Nineveh avait préparé une kyrielle d'arguments très étayés, qu'elle s'était entraînée à les présenter calmement. Rand s'en était fichu comme d'une guigne. Les deux derniers jours, il les avait passés avec ses généraux pour peaufiner sa stratégie, en vue de Tarmon Gaidon. Chaque jour, l'âne approchait un peu plus d'une bataille qu'il ne pourrait pas gagner. Face à cette échéance, Nineveh devenait de plus en plus nerveuse. 10 fois, elle avait failli abandonner Rand pour filer vers le nord. Si son mari devait se battre sans une chance de vaincre, il fallait qu'elle soit à ses côtés. Pourtant, elle restait avec Rand. Oui, que la lumière brûle ce berger, elle restait avec lui. À quoi bon aider l'âne si le monde, après, devait sombrer dans les ténèbres? Tout ça à cause de l'entêtement d'un maudit garçon qu'elle avait vu grandir, lui flanquant la fessée plus souvent qu'à son tour. Nineveh tira très fort sur sa natte. À la pâle lumière du soleil, rien d'étonnant avec ce ciel plombé, ses bracelets et ses bagues brillaient chichement. Tout le monde s'efforçait d'ignorer que le ciel n'avait rien de naturel. Mais Nineveh, experte en climat, sentait la tempête qui se préparait au nord. Il restait si peu de temps avant que l'âne ait rallié la brèche de Tarwin. Sauf si... Oui, avec un peu de chance, les compatriotes venus se joindre à lui le ralentiraient.
Fasse la lumière qu'il ne soit pas seul.
L'imaginer entrant dans la flétrissure, face aux hordes de créatures de ténèbres qui infestaient ses terres.
Nous devons attaquer là,
insista Nineveh.
Selon Ithurald, la flétrissure grouille de Trolloc. Le ténébreux rassemble ses forces. Tu peux être sûr que le gros de ses troupes sera dans la brèche. De là, il est facile de fondre sur Andor et sur le Kyrien.
C'est exactement pour ça que nous n'attaquerons pas la brèche de Tarwin, Nineveh.
Toujours cette voix calme et glaciale.
Ce n'est pas à l'ennemi de choisir nos champs de bataille. La pire erreur sera de combattre là où il le désire. Là où il nous attend.
Rand tourna la tête vers le nord.
Oui. Laissons nos adversaires se rassembler. Ils me cherchent, et je n'ai aucune intention de me rendre. Alors pourquoi se battre à la brèche de Tarwin? La vraie logique, c'est de fondre en masse sur le mont Shagolgul.
Rand,
fit Nineveh, d'un ton qui se voulait raisonnable. Ce fichu berger ne voyait-il pas tous les efforts qu'elle produisait pour être conciliante?
Rand, il n'y a aucune chance que l'âne ait réuni assez d'hommes pour contenir une marée de Trolloc.
Alors qu'une grande partie des armées des terres frontalières faisait on ne savait trop quoi, on ne savait trop où, l'avenir du mari de Nineveh s'assombrissait d'heure en heure.
Rand, il sera débordé, et les Trollocs nous envahiront.
Oui, les Trollocs nous envahiront,
répéta Rand. Toute allusion, même indirecte, aux terres frontalières, gâtait encore plus son humeur.
C'est ce que je viens de dire.
Eh bien qu'ils nous envahissent. Comme ça, ils seront occupés pendant que je ferai ce qui doit être fait.
Et l'âne?
Insista Nineveh.
Son attaque sera pertinente,
concéda Rand.
Il attirera l'attention de mes ennemis sur le Malkaire et sur la brèche de Tarwin. Du coup, ils penseront que j'y suis. Les créatures de ténèbres ne savent pas voyager, donc elles seront moins mobiles que moi. Quand elles seront enfin face à l'âne, je les aurai contournées
et je frapperai le ténébreux au cœur. Je ne projette pas d'abandonner les royaumes du Sud, bien au contraire. Quand les Trollocs débouleront de la brèche de Tarwyn, ils se sépareront en plusieurs unités, comme il s'y a des envahisseurs. C'est à ce moment-là que mes troupes, dirigées par Bachéré, jailliront de plusieurs portails pour attaquer chaque groupe de Trollocs sur les flancs ou par derrière. En procédant ainsi, c'est nous qui choisirons les champs de bataille.
« Rand !»
souffla Nineveh, sa colère balayée par une indicible horreur.
« L'âne mourra !»«
Qui suis-je pour le priver de ce bienfait ? Nous méritons tous de trouver la paix. » Nineveh en resta bouche bée. Rand en était-il vraiment à croire des choses pareilles ? Ou à se convaincre qu'il y croyait ?« Ma mission est de tuer le ténébreux, » dit Rand, comme s'il parlait tout seul. « Je le tue et ensuite je crève. C'est aussi simple que ça. »
« Mais !»
« Ça suffit, Nineveh. » Un ton toujours égal, mais tellement lourd de menaces. À l'évidence, il ne voulait plus rien entendre sur le sujet. Nineveh se laissa aller sur sa selle. Comment insister sans se faire rembarrer ? Pour résumer, Rand était prêt à laisser les Trollocs massacrer les peuples des terres frontalières. Les victimes de cette stratégie se ficheraient que le ténébreux ait été vaincu, parce qu'elle serait en train de cuire dans des chaudrons. L'âne et ses compagnons devraient combattre seuls face à tous les monstres que la flétrissure serait capable de vomir sur le monde. Les Séanchaniens lanceraient leur campagne au sud et à l'ouest, et les Trollocs attaqueraient depuis le nord et l'est. Tôt ou tard, ils se rencontreraient. Alors, Andorre et les autres royaumes deviendraient un immense champ de bataille. Leur population, des braves gens comme ceux de Deux Rivières, n'aurait aucune chance au milieu d'un tel conflit. Inexorablement, ces malheureux seraient écrasés. Que pouvait faire Nineveh contre ce désastre annoncé ? Eh bien, trouver une nouvelle stratégie pour influencer Rand. Dans son cœur, tout tendait à protéger l'âne. Elle devait convaincre Rand de l'aider. De temps en temps, la colonne passait devant une ferme. Sur la droite, Nineveh en remarqua une très semblable à celle qu'on trouvait dans le territoire de Deux Rivières. Sauf que chez elle, l'ancienne sage-dame n'avait jamais vu un fermier regarder des voyageurs avec une telle hostilité. En pantalon crasseux, les manches de chemise relevées presque jusqu'aux épaules, le type à la barbe rousse s'appuyait à une clôture de construction, sa hache ostensiblement posée sur des rondins à côté de lui. Son champ avait connu de meilleurs jours. Bien que la terre ait été correctement labourée puis ensemencée, la récolte menaçait d'être famélique. Par endroits, rien n'avait poussé, pourquoi seule la lumière le savait. Et les plantes qui consentaient à émerger du sol, chétives et jaunâtres, faisaient peine à voir. Dans un champ voisin, quelques hommes plus jeunes tentaient d'arracher une énorme souche. Sauf qu'ils ne travaillaient pas pour de bon. Pour les yeux expérimentés de Nineveh, c'était facile à voir. Le harnais n'était pas fixé autour du cou du bœuf, et il n'avait pas creusé autour de la souche. Une technique infaillible pour se faciliter la tâche. En outre, les manches qu'on apercevait dans l'herbe étaient trop longs et trop beaux pour appartenir à des outils. Des bâtons de combat. Un spectacle plutôt amusant, sachant que Rand avait 200 aïels avec lui, mais qui en disait quand même long. Ces hommes s'attendaient à du grabuge, et ils s'étaient préparés en conséquence. À l'évidence, eux aussi sentaient qu'une tempête approchait. Cette région, proche des routes commerciales et pas très éloignée de Théar, était relativement protégée des bandits. En outre, elle se trouvait juste assez loin au nord pour ne pas être mêlée aux querelles entre Théar et Liliane. Ici, les paysans n'auraient pas dû avoir besoin de se tailler des bâtons de combat, ni de lorgner des voyageurs avec un air si méfiant. Cette vigilance leur serait utile quand les Trollocs déferleraient sur eux, en supposant que les Séanchaniens n'aient pas conquis la région et enrôlé de force tous les hommes. Nineveh tira de nouveau sur sa natte. Puis elle repensa à l'âne. Elle devait faire quelque chose. Mais Rand n'était plus accessible à la raison. Résultat, il ne restait plus que le mystérieux plan de Katswané. Un plan que cette tête de mule avait refusé de dévoiler. Nineveh avait fait le premier pas, proposant une alliance. Et comment avait réagi la légende ? Avec son arrogance habituelle, bien entendu. De quel droit avait-elle osé accueillir Nineveh dans son groupe comme si elle était une fillette égarée dans des bois ? Comment la mission de l'ancienne sage-dame, trouver Perrine, serait-elle bénéfique pour Rand ? Tout au long de la semaine, Nineveh avait tenté d'arracher des informations à Katswané. En vain.
« Accomplis ta tâche, petite », avait dit la légende. « Qui sait ? Nous te donnerons peut-être plus de responsabilités à l'avenir. À l'occasion, tu te montres bien trop obstinée, et ce n'est pas ce que nous cherchons. »
Nineveh lâcha un gros soupir. Trouver Perrine. Et comment était-elle censée s'y prendre ? Les gens de Deux-Rivières ne lui avaient pas été très utiles. Beaucoup de leurs hommes voyageaient avec Perrine, mais ils ne s'étaient plus montrés depuis un bon moment. Ils devaient être quelque part dans le sud, en Altara ou au Gealdan, ce qui laissait un terrain immense à fouiller. Nineveh aurait dû savoir que les gens de Deux-Rivières ne lui apprendraient rien. À l'évidence,
Katsuane avait déjà essayé de localiser Perrine et elle avait échoué. Du coup, la corvée était revenue à l'ancienne sage-dame. Rand avait-il envoyé Perrine en mission secrète?
Rand?
En chevauchant, le dragon marmonnait entre ses dents.
Rand?
Répéta Nineveh, plus fort. Le jeune homme se tut, puis regarda sa compagne. Dans ses yeux, elle vit passer un agacement sans borne, comme s'il enrageait qu'on ait osé l'interrompre. Mais le calme glacial revint en une fraction de seconde.
Oui. Tu sais où est Perrine?
Il a des missions, et il les accomplit.
Rand détourna la tête.
Pourquoi veux-tu le savoir?
Mentionner Katsuane n'aurait pas été judicieux.
Je m'inquiète à son sujet. Et pour Matt également.
Sans blague. Tu es une experte du mensonge, pas vrai, Nineveh?
L'ancienne sage-dame en rougit d'embarras. Où ce maudit berger avait-il appris à percer les gens à jour ainsi?
Je m'inquiète pour de bon, Randaltor. Perrine est un garçon paisible, mais trop mal assuré. Du coup, il se laisse toujours pousser dans les ennuis par ses amis.
Et pend dans les dents. Que Rand réfléchisse donc un peu à ça.
Mal assuré?
Répéta Rand.
Oui, tu as raison. Il l'est resté. Mais paisible? Voilà beau temps qu'il ne l'est plus tant que ça.
Donc, Rand avait été en contact avec Perrine dans un passé proche. Comment Katsuane l'avait-elle su? Comment Nineveh avait-elle pu ne rien voir ni entendre?
Rand, si Perrine œuvre pour toi, pourquoi gardes-tu le secret? Je mérite de...
Je n'ai pas rencontré Perrine, crois-moi et calme-toi. Je sais certaines choses, c'est tout. Perrine, Matt et moi, nous sommes... connectés.
Comment? Qu'avez-vous?
N'en dirai pas plus, Nineveh.
Coupa Rand. Une fin de non-recevoir nette et franche. Nineveh serra de nouveau les dents. Les autres sœurs se vantaient de contrôler leurs émotions, mais elles n'avaient pas souvent affaire à Rand, mur de glace, Altor. Sereine, l'ancienne sage-dame pouvait l'être, quand elle ne devait pas gérer le type le plus insupportable qui ait jamais glissé ses pieds dans une paire de bottes. Sous le ciel noir, une sorte de linceul de tourbe, les deux cavaliers avancèrent en silence. Le point de rendez-vous avec les frontaliers était un carrefour assez proche. Ils auraient pu voyager jusque-là, mais les premiers avaient convaincu Rand de s'en tenir à l'approche prudente habituelle. Ouvrir un portail était la chose la plus facile au monde. Dans un certain contexte, ça se révélait aussi la plus dangereuse. Si l'ennemi devinait où on comptait émerger, tomber sur une haie d'archers n'avait rien d'un sort enviable. Envoyer d'abord des éclaireurs n'était pas aussi sûr que d'arriver sur un site où personne ne risquait d'avoir monté une embuscade. Les aïels apprenaient vite et s'adaptaient encore plus rapidement. Une vraie surprise, ça. Leur désert, mortellement uniforme, n'aurait pas dû les préparer à ça. Cela dit, Nineveh avait déjà entendu des aïels tenir le même discours sur les habitants de Terre Mouillée. Ce carrefour n'était plus fréquenté depuis des années. Si Vérine ou notre sœur marron avait été là, elle aurait su expliquer pourquoi. Tout ce que Nineveh savait tenait en quelques phrases. Dans un lointain passé, le royaume auquel appartenaient ces terres s'était écroulé. Tout ce qui en restait, c'était Pharmading, une cité indépendante. Avec le temps, les plus grands royaumes pouvaient disparaître, laissant la place à des champs où les dirigeants, des fermiers, avaient pour seul programme de faire pousser de l'orge de qualité supérieure. C'était arrivé à Manéthérène, et ici. Des voies qu'arpentaient jadis des armées étaient devenues de vulgaires pistes qui auraient bien eu besoin d'un peu d'entretien. De guerre lasse, Nineveh laissa Rayon de Lune ralentir assez pour ne plus être au niveau de Rand. Du coup, elle se retrouva avec Narishma, reconnaissable à ses tresses noires où pendaient des clochettes. Comme presque tous les Achamans, il portait du noir, l'épée et le dragon brillant à son col. En quelques mois, depuis qu'il était lié, il avait beaucoup changé. En lui, Nineveh ne voyait plus du tout un garçon. Désormais, il était un homme, avec la grâce d'un guerrier et les yeux attentifs d'un champion. Un combattant qui avait vu la mort en face et affronté des rejetés.
« Narishma, tu es un frontalier, »
dit Nineveh.
« Tu sais pourquoi ces gens ont abandonné leur poste ?»
Sans cesser de sonder les environs, Narishma secoua la tête.
« J'étais le fils d'un cordonnier, Nineveh Sedai. Sur les dames et les seigneurs, je ne sais rien. »
Il hésita.
« De plus, je ne suis plus un frontalier. »
Pas besoin d'un dessein. Quoi qu'il arrive, Narishma protégerait Rand. Et tant pis pour ses autres allégeances. Une façon de penser très adaptée à un champion.
« As-tu idée de ce qui nous attend, au moins ?»« Ils tiendront parole, Nineveh Sedai. Un frontalier préférerait mourir plutôt que de se parjurer. Ils ont promis d'envoyer une délégation pour négocier avec le Seigneur Dragon, et ils s'en tiendront là. Cela dit, je regrette que nos Aes Sedai n'aient pas eu le droit de venir. »
Selon les rapports, 13 Aes Sedai accompagnaient les troupes des frontaliers. Un chiffre dangereux. Celui qui était requis pour calmer une femme ou apaiser un homme. En cercle, 13 sœurs pouvaient couper n'importe qui de la source. Rand avait exigé que 4 de ses sœurs seulement soient présentes dans la délégation. En retour, il s'était engagé à compter dans la sienne le même nombre de personnes capables de canaliser. 2 achamans, Nineveh et lui-même. Quand le dragon leur avait interdit de venir, Mérise et les autres avaient brandi le poing, enfin dans la version Aes Sedai de la chose, c'est-à-dire à grand renfort de mots désapprobatrices et de questions perfides. « Tu es certain de vouloir faire ça, Seigneur Dragon ?» Du coin de l'œil, Nineveh remarqua que Narishma était de plus en plus tendue. « Tu n'as pas l'air de leur faire si confiance que ça. La place d'un frontalier, c'est de surveiller la frontière. Fils de cordonnier, j'étais pourtant entraîné à manier l'épée, la lance, l'arc, la hache et la fronde. Même avant de rallier les achamans en duel, j'étais meilleur que 8 soldats du Sud sur 10. Nous vivons pour défendre, et pourtant, ils sont partis, avec 13 Aes Sedai. » Narishma riva ses yeux noirs dans ceux de Nineveh. « J'ai envie de leur faire confiance, parce que ce sont des gens de bien, mais les meilleurs peuvent commettre une erreur. En particulier quand des hommes capables de canaliser sont impliqués. » Nineveh se tut. Le raisonnement de Narishma se tenait. Mais pourquoi les frontaliers auraient-ils soudain voulu nuire à Rand? Depuis des siècles, ils luttaient contre l'expansion de la flétrissure et les raids des créatures des ténèbres. Le combat contre le ténébreux était marqué au fer rouge dans leur âme. En aucun cas, ils ne se retourneraient contre le dragon réincarné. Les frontaliers avaient un sens de l'honneur bien à eux. C'était parfois frustrant, certes, mais ils étaient ainsi. La dévotion de l'âne pour le Malkier, alors que tant de ses compatriotes avaient renoncé à leur identité, n'était pas pour rien dans l'amour que lui portait Nineveh.
« L'âne, je trouverai quelqu'un pour t'aider. Tu n'entreras pas seul dans la tanière des ténèbres. »
Alors que la colonne approchait d'une petite colline plus ou moins verdoyante, des éclaireurs aïeuls apparurent, de retour d'une patrouille. Rand leva une main, ordonnant une halte le temps que les guerriers en Kadinsor, en bonne partie arborant le brassard rouge orné de l'antique symbole des Aes Sedai, soient arrivés jusqu'à lui. Même s'ils avaient couru jusqu'au point de rendez-vous puis en étaient revenus sans pause, les aïeuls n'étaient pas essoufflés. Rand se pencha en avant sur sa selle.
« Ont-ils fait ce que je demandais ? »
lança-t-il.
« Pas plus de 200 hommes et de 4 Aes Sedai ?»«
Ouais, Randaltor, »
répondit un des hommes.
« Ils ont respecté scrupuleusement tes exigences. Mieux que ça, même. Des gens d'honneur. »
Dans le ton du guerrier, Nineveh reconnut la pointe d'humour à Yel, qui la désorientait tant.
« Où est le problème ? »
demanda Rand, pas dupe.
« Un homme, Randaltor. » Voilà en quoi consiste la délégation. Un homme tout petit, même s'il a l'air du genre à savoir danser avec les lances. Le carrefour est juste derrière la colline.
Nineveh sonda le lointain. Oui, en plissant les yeux, on distinguait une autre route qui venait du sud. Très probablement, elle croisait la leur derrière la colline.
C'est quel genre de piège ?
Demanda Naef en se portant à la hauteur de Rand.
Une embuscade ?
Rand leva la main pour intimer le silence à tout le monde. Puis il talonna son cheval, et les éclaireurs le suivirent sans un mot de protestation. Nineveh eut du mal à ne pas se laisser distancer. Rayon de Lune était un équidé bien plus placide que ce qu'elle aurait choisi. De retour à Théar, il faudrait qu'elle en touche un mot au palefrenier. Après avoir contourné la colline, les cavaliers découvrirent un carré de terre constellé de trous, les multiples fosses à feu des caravanes de passage. Une voie plus petite que la leur formait bien un carrefour avant de remonter un peu vers le nord, puis de redescendre vers le sud. Au centre exact du carrefour, un guerrier du Chienna regardait approcher la délégation. Petit et mince, ses cheveux gris encadrant un visage rond, il n'était plus de la première jeunesse. Ses yeux, déjà petits, disparaissaient presque tellement il les plissait.
« Ourin ?»
pensa Nineveh, stupéfaite. Elle n'avait plus vu le renifleur depuis qu'il avait accompagné un groupe dont elle faisait partie jusqu'à la Tour Blanche. Un épisode qui avait suivi de peu les événements de Falm. Rand tira sur ses rênes, permettant à ses 3 compagnons de le rejoindre. Comme un tas de feuilles mortes dispersées par le vent, les aïeuls prirent position autour du carrefour. Nineveh aurait parié que les achamans s'étaient connectés à la source. Même chose pour Rand. Ourin sautait d'un pied sur l'autre. À quelques détails près, il correspondait au souvenir que l'ancienne sage-dame avait de lui. Les cheveux plus gris, certes, mais toujours les mêmes vêtements marrons très simples, avec à sa ceinture une épée courte et une dague à lame crénelée. Son cheval était attaché à un tronc, non loin de là. Comme d'habitude, les aïeuls lorgnaient l'équidé sans cacher leur méfiance. Une meute de chiens de garde ne leur aurait pas paru plus suspecte.
« Seigneur Rand !»
lança Ourin d'une voix un peu rauque.
« C'est toi, vraiment ? Eh ben, tu as fait ton chemin dans le monde, on dirait. Content de... »
Le petit homme se tut, car il venait d'être soulevé du sol. Renversé par des flux d'air invisibles, il poussa un petit cri de surprise. Nineveh en frissonna malgré elle. Quand s'habituerait-elle enfin à voir des hommes canalisés ?
« Aurine, »
dit Rand.
« Lorsque nous étions piégés dans un autre monde, qui nous poursuivait ? De quelle nationalité étaient les hommes que j'ai abattus avec mon arc ?»«
Des hommes ?»
couina Aurine.
« Seigneur, il n'y avait personne dans ce monde. En tout cas, nous n'avons rencontré personne, à part Dame Sélène. En revanche, je me souviens très bien des Grolmes. À ce qu'on dit, ce sont les créatures que les Séanchaniens chevauchent. »
Rand fit tourner Aurine sur lui-même. Rivant sur sa proie un regard glacial, il talonna sa monture. Nineveh et les deux achamans le suivirent.
« Tu ne crois pas que je suis moi, Seigneur Rand ?»
demanda Aurine.
« Ces derniers temps, je ne tiens rien pour acquis. Je suppose que les frontaliers t'envoient parce que nous nous connaissons. »
Lustré de sueur, Aurine hocha la tête. Nineveh eut pitié du petit homme. Le renifleur était dévoué corps et âme à Rand. En quête du corps de Valère et à la poursuite de Fain, ils avaient passé pas mal de temps ensemble. Lors du voyage vers Tarvalon, l'ancienne sage-dame avait eu un mal de chien à empêcher Aurine de raconter partout les exploits de son héros. Pour ce brave homme, être malmené ainsi par son idole devait faire mal.
« Pourquoi es-tu seul ?»
demanda Rand.
« Eh bien, ils t'ont dit que... »
Aurine hésita, comme si quelque chose le distrayait.
« Voilà qui est étrange. »
Il huma l'air.
« Je n'ai jamais senti une odeur pareille. »
« Pardon ?»«
Je ne sais pas trop. » On dirait que le vent charrie des senteurs de mort et de violence, mais ce n'est pas ça en réalité. C'est plus sombre, plus terrible.
Aurine frissonna. Son attitude à renifler la violence était un des mystères que la Tour Blanche ne parvenait pas à expliquer. Un don sans relation avec le pouvoir, mais pas naturel pour autant. Rand sembla se ficher de ce que Aurine reniflait.
« Explique-moi pourquoi ils n'ont envoyé que toi. »
« J'étais en train de te le dire, Seigneur Rand. En fait, nous sommes ici pour discuter de... conditions. »
Celles que vous posez pour retourner tous d'où vous venez ?
Non, non. Les conditions permettant d'organiser une véritable rencontre. Dans la lettre, cette partie n'était pas claire. Ils m'ont prévenu que tu risquerais d'être en colère.
Il se trompait, fit Rand d'une voix très douce. Nineveh se pencha en avant pour entendre la suite.
La colère, je ne sais plus ce que c'est, Aurine. Elle ne me sert plus à rien. Mais pourquoi aurions-nous besoin de conditions pour nous rencontrer ? J'ai pensé que venir avec une force réduite serait un gage de ma bonne foi.
Eh bien, Seigneur Rand, ils veulent vraiment te rencontrer. Nous avons fait beaucoup de chemin durant ce fichu hiver pourri. Désolé, Aes Sedai, mais il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Un fichu hiver pourri et sacrément rude, même s'il a pris son temps avant de nous tomber dessus. Quoi qu'il en soit, nous avons souffert pour toi, Seigneur Rand. Donc, mes chefs veulent vraiment te rencontrer.
Mais...
La dernière fois que tu étais à Farmading, il y a eu...
Rand leva un index. Aussitôt, Aurine se tut, et tout devint silencieux, les chevaux eux-mêmes semblant retenir leur souffle.
Les frontaliers sont à Farmading ?
Oui, Seigneur Rand.
C'est là qu'ils veulent me rencontrer ?
Oui, Seigneur Rand. Tu devras entrer dans le cercle de protection du gardien, ce qui t'empêchera de canaliser, et...
Un geste sec de Rand incita Aurine à se taire. Le portail qui s'ouvrit dans la foulée ne semblait pas conduire à Farmading, mais, plus prosaïquement, à l'endroit où le dragon et ses compagnons étaient partis. Rand relâcha Aurine, fit signe aux aïels de le laisser monter à cheval, puis il traversa promptement le portail. Que se passait-il ? Très troublé, tout le monde le suivit. Une fois ce portail franchi, Rand en créa un autre, celui-ci donnant dans une ravine que Nineveh crut reconnaître. Après leur visite à Farmading avec Katsuane, ils s'étaient arrêtés là. « Pourquoi le premier portail ?» se demanda Nineveh, troublée. Soudain, elle comprit. Pour voyager à courte distance d'un lieu donné, il n'y avait pas besoin de le connaître parfaitement. Et avoir voyagé jusqu'à un lieu conférait assez de connaissances à son sujet pour pouvoir y ouvrir un portail. En d'autres termes, en faisant d'abord un petit bond, Rand mémorisait assez l'endroit pour pouvoir ouvrir des portails à volonté, en économisant le temps requis pour étudier un site à fond. Une astuce hautement brillante. Honteuse de ne pas y avoir pensé, Nineveh sentit qu'elle s'empourprait. Depuis quand Rand maîtrisait-il ce truc ? S'agissait-il d'un souvenir de la voix qui résonnait dans sa tête ? Rand déboula dans la ravine, les sabots de taille d'Aïchar soulevant un tourbillon de feuilles mortes. Nineveh suivit le mouvement, tentant de forcer sa paisible jument à suivre le rythme infernal du dragon. Ce palefrenier allait l'entendre à son retour. Quand elle en aurait fini avec lui, ses oreilles chaufferaient. Aurine traversa lui aussi, en même temps que les aïels, qui l'encadraient sans trop en avoir l'air. Visage voilé, lance ou arc au poing, les guerriers ne quittaient pas le renifleur du regard. Les arbres et les broussailles passées, Rand tira sur les rênes de son destrier. Puis il sonda la prairie, en direction de l'antique cité de Farmading. Rien d'une ville géante comparée aux mégalopoles, et rien de stupéfiant eu égard aux merveilles construites par les ogiers que Nineveh connaissait. Cela dit, ce n'était pas un hameau. On y trouvait de vrais chefs-d'œuvre d'architecture plus une kyrielle d'antiques vestiges. Bâti sur une île, au milieu d'un lac, Farmading n'était pas sans rappeler Tarvalon. Trois grands ponts dominaient les eaux paisibles, le seul moyen d'entrer en ville. Un camp militaire, peut-être plus grand que la cité, s'étendait autour du lac. Nineveh distingua des dizaines de bannières, représentant tout autant de maisons différentes. Les chevaux se comptaient par milliers et les tentes, de loin, faisaient penser à des plantes bien alignées dans un champ en plein été. L'armée des frontaliers.
J'ai entendu parler de cet endroit, dit Naef, ses courts cheveux bruns ondulant sous les caresses du vent.
Il plissa le front, l'air mécontent.
On dirait un sanctuaire, mais sans toute la sécurité qui va avec.
Le Terangréal géant de Farmading, appelé le gardien, créait une bulle protectrice invisible qui interdisait aux visiteurs d'accéder à la source authentique. Cette restriction pouvait être contournée grâce à un autre Terangréal très spécial dont Nineveh était muni. Mais ce petit puits ne ferait pas de miracle. L'armée des frontaliers semble être dans la zone d'action, environ une demi-lieue autour de la ville, de la bulle qui empêchait spécifiquement les hommes de canaliser.
« Ils savent déjà que nous sommes là, » dit Rand, les yeux plissés. « Ils n'attendaient que ça, et ils croient que je vais me jeter dans leur caisse. »«
Leur caisse ?» répéta Nineveh, perplexe.
« La ville entière est une caisse, comme ses environs. Ils veulent me voir à un endroit où ils peuvent me contrôler, mais ils n'ont rien compris. Personne ne me contrôle. » Ce temps-là est révolu. J'en ai assez des caisses, des prisons, des chaînes et des cordes. Plus jamais je ne serai entre les mains de quelqu'un d'autre.
Les yeux toujours rivés sur la ville, il sortit la statuette, sa clé d'accès. Nineveh en frissonna d'angoisse. Était-il obligé de trimballer partout cet artefact?
Ils ont peut-être besoin d'une leçon, continua Rand. Quelque chose qui les encourage à m'obéir et à faire leur devoir.
Rand! Nineveh réfléchissait, ou du moins, elle essayait. Impossible de laisser recommencer ça. La clé d'accès commença à briller faiblement.
Ils veulent me capturer, dit Rand d'un ton très calme, pour me retenir et me rouer de coups. Ça m'est déjà arrivé une fois à Farmading.
Rand! Cria Nineveh. Le dragon la regarda comme s'il la voyait pour la première fois.
Rand! Ce ne sont pas des esclaves au cerveau brûlé par Grendal. Cette ville est peuplée de gens innocents.
« Je ne leur ferai pas de mal, » dit le dragon, la voix glaciale. « C'est l'armée qui mérite une leçon, pas la ville. Une pluie de flammes, peut-être, ou d'éclairs. »«
Rand, ces gens n'ont rien fait, à part demander à te rencontrer !»
Nineveh porta son cheval à la hauteur de Taibaïchar. Dans la main de Rand, le Terangréal faisait penser à une vipère. Un jour, cet artefact avait purifié la source. S'il avait pu fondre après, comme sa contrepartie féminine. L'ancienne sage-dame ne savait pas trop ce qui arriverait si Rand tentait de frapper une cible placée sous la bulle protectrice de Farmading. Hélas, elle soupçonnait que les dégâts seraient terribles. Si on parvenait à s'unir à la source, le gardien n'empêchait pas qu'on canalise le pouvoir. Avec son puits, Nineveh n'avait eu aucun mal à réaliser des tissages. Quoi qu'il en soit, elle devait interdire à Rand de défouler sa colère ou tout autre sentiment négatif sur ses alliés.
« Rand, si tu fais ça !» Tu auras atteint le point de non-retour.
Je l'ai déjà dépassé, Nineveh.
Les yeux de Rand fluctuaient, un jour presque bleu et le lendemain quasiment gris. Aujourd'hui, ils étaient gris acier.
Au moment où Tam m'a trouvé sur le flanc de ce mont, j'ai fait mon premier pas sur ce chemin.
Peut-être, mais aujourd'hui tu n'as pas besoin de tuer tout le monde. Je t'en prie.
Rand se tourna de nouveau vers la cité. Peu à peu, la clé d'accès cessa de briller.
Ourin !
Cria le dragon. Il est à un souffle de s'écrouler. On entend de la rage dans sa voix. Le renifleur accourut. Bizarrement, les aïels ne le suivirent pas.
Oui, Seigneur Rand.
Retourne avec tes maîtres à l'intérieur de leur caisse.
Non, la voix ne tremblait déjà plus.
Et transmets-leur un message.
Lequel, Seigneur Rand?
Le dragon hésita, puis il remit la statuette à sa place.
Dis-leur que le dragon réincarné partira bientôt pour le mont Shayolghul. Pour y affronter le ténébreux. S'ils veulent retourner à leur poste avec leur honneur intact,
Je les ferai voyager jusqu'à la flétrissure. Sinon, ils peuvent se cacher ici. Ils expliqueront à leurs enfants et à leurs petits-enfants pourquoi ils étaient à des centaines de lieues de leur poste, quand les prophéties sur la mort du Ténébreux se sont réalisées.
Urine ne cacha pas son émoi.
Oui, Seigneur Rand.
Sans rien ajouter, Rand fit volter son cheval et s'en retourna vers la ravine entourée d'arbres. Nineveh le suivit, lentement. Si belle que fût Rayon de Lune, elle l'aurait changé sans regret contre un canasson de deux rivières tel que Bella. Urine resta là où il était. À l'évidence, sa rencontre avec le Seigneur Dragon ne s'était pas déroulée comme il l'entendait. Quand Rand eut disparu entre les arbres, l'ancienne sage-dame serra les dents. Dans la ravine, il allait ouvrir un portail qui donnerait directement sur Théar. La colonne déboucha sur le site de voyage aménagé devant la cour des écuries de la pierre de Théar. Ici, malgré le ciel noir, l'air était chaud et moite. Comme toujours, il charriait les cris des hommes à l'entraînement et des mouettes en quête de pitance. Rand avança vers un groupe de garçons d'écurie, puis il mit pied à terre, les traits toujours impénétrables. Alors que Nineveh se laissait glisser au sol puis tendait ses rênes à un jeune type au teint rubicon, le dragon approcha d'elle.
« Cherche une statue, » souffla-t-il en la dépassant.
« Pardon ?
Tu veux savoir où est Perrine ? En ce moment, son armée et lui campent à l'ombre d'une statue géante en forme d'épée qui s'enfonce dans la terre. Les érudits de la pierre sauront te dire où est cet endroit. Il n'y en a pas de semblable au monde. »
« Comment sais-tu tout ça ?»
Rand haussa les épaules.
« Je le sais, c'est tout. »«
Pourquoi me le dire ?»
s'enquit Nineveh, en emboîtant le pas au jeune homme. Pendant qu'il traversait la cour, elle tenta de faire le point. Cette information, elle n'aurait jamais cru qu'il la lâcherait. Ces derniers temps, il ne partageait plus rien, même sur des sujets sans importance.
« Parce que... »
Rand accéléra le pas, sa voix presque inaudible.
« Parce que j'ai une dette envers toi. » Quand j'en suis incapable, tu sais faire montre de compassion à ma place. Si tu trouves Perrine, dis-lui que j'aurai bientôt besoin de lui. »
Sur ces mots, il accéléra encore le pas. Nineveh s'immobilisa au milieu de la cour et le regarda s'éloigner. Dans l'air, une odeur humide planait, annonçant de la pluie. Il bruinait, s'avisa soudain l'ancienne sage-dame. Pas assez pour purifier l'air ou détremper la terre, mais suffisamment pour que les murs luisent d'humidité dans les coins ombragés. Sur la droite, des hommes entraînaient des chevaux à slalomer entre des piquets. À la connaissance de Nineveh, la pierre était la seule forteresse offrant de telles conditions d'exercice à la cavalerie. Mais cette place forte, il était vrai, n'avait rien d'ordinaire. Le martèlement des sabots évoquant un lointain orage, l'ancienne sage-dame tourna la tête vers le nord. La tempête semblait encore plus proche. Elle avait paru s'accumuler au-dessus de la flétrissure, mais à présent, ce n'était plus si sûr. Nineveh prit une grande inspiration. Puis elle se dirigea vers la pierre. Dépassant de défenseurs en uniforme immaculé, elle croisa aussi des garçons d'écurie qui, sans nul doute, rêvaient d'être un jour vêtus ainsi. Pour l'instant, ils conduisaient simplement des chevaux vers leur stall où ils seraient soignés et nourris. L'ancienne sage-dame croisa aussi une multitude de serviteurs en livrée de lin, un matériau sans nul doute plus confortable que sa bonne vieille laine de deux rivières. La façade de la pierre était une muraille inexpugnable, percée de fenêtres qui semblaient minuscules vues de loin. Plissant les yeux, Nineveh repéra l'endroit où Matt avait détruit une section de la muraille avec ses feux d'artifice d'illuminateurs. Pour une bonne cause, puisqu'il venait libérer Nineveh et les autres. Sacrée tête de mule. Où était-il donc? Elle ne l'avait pas vu depuis une petite éternité. La chute des Boudards face au Céan Chanien, très précisément. En un sens, et même si elle ne l'aurait jamais admis, elle avait le sentiment d'avoir abandonné le jeune flambeur. Mais bon, elle s'était assez ridiculisée en défendant ce vaurien devant la fille de Neuf Lunes. Quelle mouche l'avait donc piquée? Encore aujourd'hui, elle n'aurait su le dire. Matt était assez grand pour prendre soin de lui. Pendant que ses amis s'échinaient à sauver le monde, il devait faire la brinque dans une taverne, l'alcool et le jeu. Rand était d'une toute autre envergure. Tant qu'il avait continué à se comporter comme un mâle standard, obtus, immature mais prévisible, le gérer s'était révélé facile. Le nouveau Rand, sans émotion, la voix monocorde, commençait à lui taper sur les nerfs. Peu familière des longs couloirs de la pierre, l'ancienne sage-dame s'y perdait encore très souvent. Pour lui compliquer la vie, la configuration des corridors et des cloisons n'était plus stable du tout. Au début, elle avait cru à des ragots imbéciles. Mais la veille, il lui avait bien fallu constater que sa chambre n'était plus au même endroit. Pour preuve, sa porte s'était ouverte sur un mur aussi lisse que la façade de la forteresse. Contrainte de recourir à un portail pour résoudre son problème, Nineveh avait été stupéfiée de voir que sa fenêtre, désormais, était située deux niveaux plus haut qu'avant. Selon Katsuane, le contact du Ténébreux, de plus en plus insistant, détissait lentement la trame. La légende racontait beaucoup de choses, et dans le lot, très peu intéressait Nineveh. Après s'être perdue deux fois, elle arriva enfin devant la porte de Katsuane. Au moins, Rand n'avait pas ordonné qu'on ne lui affecte pas de chambre. Nineveh frappa à la porte, avec la légende c'était toujours conseillé, puis entra d'un pas décidé. Les Aes Sedai du groupe de Katsuane, Mérise et Corel, faisaient de la couture en dégustant une infusion. Sans grand succès, elles tentaient de faire croire qu'elles n'attendaient pas de connaître les nouveaux caprices de leur chef. Katsuane conversait avec Mine, sur qui elle avait jeté son dévolu ces derniers jours. La compagne de Rand ne semblait pas s'en soucier, peut-être parce qu'il n'était pas facile de passer du temps avec son homme en ce moment. Nineveh éprouva une sincère sympathie pour la jeune femme. Elle, au moins, n'était qu'une amie de Rand. L'aimer ne devait pas être une partie de plaisir. Pendant qu'elle refermait la porte, tous les regards se rivèrent sur la nouvelle venue.
« Je crois que je l'ai trouvé, »
annonça-t-elle.
« Qui ça, mon enfant ?»
demanda Katsuane, sans cesser de feuilleter un des livres de Mine.
« Perrine, tu avais raison. Rand sait où il est. »«
Bien joué, »
s'écria la légende.
« Tu t'en es bien sorti. On dirait que tu mérites d'être des nôtres. »
Nineveh se demanda ce qui l'ennuyait le plus. Le compliment délibérément tordu ou sa réaction, le cœur battant follement de fierté. Être flatté par les roueries de cette femme. Pourtant, elle n'était plus une gamine attendant d'être autorisée à porter une natte.
« La suite ?»
demanda Katsuane, en levant les yeux de l'ouvrage. Les deux sœurs ne bronchèrent pas. Mine, en revanche, félicita l'ancienne sage-dame d'un regard chaleureux.
« Où est-il ? »
insista la légende. Nineveh ouvrit la bouche pour répondre, mais elle se ravisa. Pourquoi avait-elle le réflexe d'obéir à cette femme ? Une chose de sûre, ça n'avait rien à voir avec le pouvoir de l'unique. Simplement, Katsuane était l'image même d'une grand-mère dure mais juste. Le genre auquel on ne résiste jamais, mais qui offre une sucrerie quand on a bien balayé le sol selon ses ordres.
D'abord, je veux savoir pourquoi Perrine est si important.
Nineveh avança et s'assit sur le dernier siège libre, un tabouret en bois sommairement peint. Une fois installée, elle s'avisa qu'elle était trop bas pour croiser facilement le regard de Katsuane, bien à l'aise sur un siège normal. Une étudiante devant son professeur. Nineveh faillit se relever. Elle y renonça, consciente que ça attirait encore plus attention sur elle.
« Du chantage ?»
s'écria Katsuane.
« Tu garderais cette information pour toi, au risque de mettre en danger les gens que tu aimes ? Je veux savoir dans quoi je me suis engagée, et être certaine que cette information ne servira pas à blesser Rand plus qu'il l'est déjà. Tu oses penser que je pourrais nuire au garçon ? Disons que je ne penserai pas le contraire, tant qu'on ne me l'aura pas prouvé. Quel est ton plan, Katsuane ?»
La légende referma le livre, intitulé « Écho de sa dynastie », et ne cacha pas son trouble.
Peux-tu au moins me dire comment s'est passée la rencontre avec les frontaliers? Ou ce rapport est-il lui aussi lié à une rançon?
Cette femme croyait-elle déstabiliser Nineveh avec des trucs minables de ce genre?
Une catastrophe, comme on pouvait s'y attendre. Confinés à Farmading, les frontaliers ont refusé de montrer le bout de leur nez. L'idée était que Rand soit dans la bulle du gardien, donc coupé de la source. A-t-il pris ça bien?
Demanda Corel. Assise sur un banc muni d'un coussin, elle souriait. Apparemment, c'était la seule à trouver amusante et non terrifiante la métamorphose de Rand. Cela dit, elle faisait partie des premières femmes à avoir lié un achaman, et avec enthousiasme.
« S'il l'a bien pris, » souffla Nineveh, « c'est très relatif. Sortir son Terangréal et menacer de faire pleuvoir du feu sur une armée est une réaction décontractée, selon toi ?»
Mine blêmit, et Katsuane arqua un sourcil.
« Ce garçon rira de nouveau, »
affirma-t-elle.
« Il n'a pas vécu jusque-là pour échouer. » « En quoi est-ce important ?»
demanda Corel. Nineveh la foudroya du regard.
« Ben quoi ?»
fit Corel en posant son ouvrage.
« Je persiste. En quoi est-ce important ? À l'évidence, nous sommes sur le point de réussir. »« Qui t'a donné cette idée ?»
s'écria Nineveh.
« Nous avons passé la journée à cuisiner cette fille sur ses visions. »
Corel désigna Mine.
« Elle ne ment jamais, et certaines ne peuvent avoir lieu qu'après l'ultime bataille. Ça tombe sous le sens. Donc, nous savons que Rand vaincra le Ténébreux. La trame en a déjà décidé. Il faut cesser de nous inquiéter.
Non,
dit Mine.
Tu ne comprends pas.
Corel fronça les sourcils.
Doit-on conclure que tu nous as menti sur tes visions? Non. Mais si Rand perd, il n'y aura plus de trame. Elle a raison,
intervint Katsuane, l'air surprise.
Ce que voit Mine est tissé dans la trame de l'avenir. Si le Ténébreux l'emporte, il détruira tout. Le passé, le présent et le futur. Pour que les visions ne se réalisent pas, c'est la seule possibilité. C'est la même chose avec d'autres prophéties ou prévisions. En conséquence, Notre victoire n'a rien d'assuré. »
Cette tirade jeta un froid dans la pièce. Ces femmes ne faisaient pas de la politique de village. L'enjeu, c'était la création elle-même. Pas de basse affaire de domination d'une classe sur une autre. « Puis-je garder cette information pour moi, s'il y a une chance que la divulguer Edlan ?» Penser à lui arrachait le cœur de Nineveh. Hélas, peu de possibilités s'offraient à elle. À dire vrai, le seul espoir de l'âne semblait être de se reposer sur les armées que Rand pouvait mobiliser et sur les portails que ses hommes étaient capables d'ouvrir. Rand devait changer. Pour l'âne, mais aussi pour eux tous. Mais Nineveh ne savait que faire, sinon se fier à Katsuane. Du coup, elle se décida à parler.
« Sais-tu où se trouve la statue écroulée d'une épée géante? On dirait que la lame a voulu transpercer la terre. »
Corel et Mary se regardèrent avec des yeux ronds.
« La main de Laman Rukan, »
dit Katsuane, en se détournant enfin de mine.
« La statue n'a jamais été achevée. C'est du moins l'opinion des érudits. Ce vestige repose près de la route de Jeana. Perrine campe à l'ombre de cette relique. J'imagine qu'il se dirige vers les pays qu'Altor a conquis. Très bien. Nous partons le rejoindre sur le champ. »
Katsuane hésita, puis daigna regarder Nineveh.
« Pour répondre à ta question, mon enfant, Perrine est important pour notre plan. Sans blague, je m'en doutais, mais... »
Katsuane leva un index.
« Avec lui, il y a des personnes vitales pour nous. Une en particulier. »